Je suis avec Antoinette de Wolff-Simonetta. Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour madame. Vous venez de donner une excellente conférence et malheureusement, je vais tout vous faire répéter. Mais heureusement pour nos auditeurs et auditrices, nous sommes réunis ici dans la salle Safran, juste à côté de la Fondation d'INREDA, pour parler de The Sun is God, cette exposition consacrée à William Turner. William Turner que la Fondation avait déjà honoré en 1999. Avec Turner dans les Alpes. Et là, c'est un peu différent. On va avoir le plaisir de voir des tableaux qui sont consacrés à tout son travail sur la lumière. Comment est venue cette proposition de la part de la Tête, avec qui vous avez un étroit lien, il me semble, tous ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent à la Fondation?
Oui, en effet, c'est eux qui ont téléphoné à M. Janada et qui lui ont proposé cette exposition et qui est complètement privilégiée parce qu'il y a beaucoup d'œuvres sur papier qui sont très délicates et ils nous les ont prêtées et puis pour quand même une longue période, ce qui est vraiment un privilège fantastique.
Alors justement, Antoinette de Wolff, vous mentionnez le papier. On pense à justement Léon Spillert qui est actuellement à l'Ermitage. C'est difficile d'exposer des toiles qui sont sur papier parce qu'elles ont une fragilité, elles sont plus vulnérables. Vous avez dû prendre des mesures aussi pour accueillir ces œuvres.
Écoutez, oui, au point de vue de la lumière. La lumière, il y a les, je ne sais pas ben vous dire exactement le nombre de watts, mais c'est très calculé pour que ça ne soit pas dangereux, qu'elle ne soit pas abîmée en fait, par la lumière.
Alors quand on songe comme ça, le Sam Kidam à William Turner, on a à l'esprit ces incendies, des toiles qui sont assez obscures. Quand on voit votre conférence, il y a beaucoup de toiles ici réunies qui sont claires, qui ont vraiment un travail qui annonce presque le pointillisme, l'impressionnisme. C'est aussi ce mélange d'œuvres qui sont très diversifiées, qui vous ont plu dans cette exposition que vous présentez.
Ah oui, en effet, donc on a voulu montrer, le titre le dit, The Sun is God, l'influence de la lumière qui va tout transformer, et puis c'est aussi cette façon d'essayer de percevoir l'atmosphère et de nous rendre l'atmosphère, l'impression de l'atmosphère, et en fait c'est un petit peu toutes les aquarelles qui nous montrent cette sensibilité qu'il a à la lumière, tout ce que la lumière transforme, bien sûr, et que lui va peindre avec des pinceaux extrêmement fins, souvent des pinceaux de martre, en fait, et il va nous rendre, avec des nuances très subtiles, avec des coloris, des demi-teintes, des nuances aussi magnifiques, hein, cette atmosphère qu'il a voulu nous donner de la tempête, de la lumière, d'une ville, etc.
Vous mentionnez au début de la conférence tout à l'heure, c'est un enfant prodige, c'est un précoce. Il y a cette précocité déjà quand il est recueilli par son oncle maternel, après la mort de sa mère, si je ne m'abuse. Non, avant. Mais enfin, après, sa mère n'est pas capable de pouvoir s'en prendre soin. Et là, il signe ses premiers dessins. C'est impressionnant, cette précocité.
Oui, il était chez un oncle maternel, d'abord à Brentford, et c'est là qu'il apparaît, il lui a envie de dessiner. Et puis, à l'âge de 12 ans, alors là, il s'affirme et il dessine. Son père est extrêmement fier. D'ailleurs, son père disait, alors qu'il était coiffeur perruquier, il disait, eh bien, mon fils va devenir peintre, c'est un peintre. Et il exposait les œuvres de son fils dans la boutique et il les vendait. Et puis, alors, il y a des architectes très nombreux qui se sont adressés à Turner pour faire des dessins topographiques qui étaient très demandés à l'époque. Et c'est un prodige. Il était terriblement doué.
Tellement doué qu'il a été accepté à un âge très jeune à la Royal Academy of London.
Oui, à 27 ans, il a été nommé membre de l'Académie royale, membre à part entière. Mais c'est incroyable. C'est le plus jeune jamais élu et ça le reste encore à l'heure actuelle. Il avait 27 ans.
C'est très impressionnant. Par rapport au travail, aux œuvres que vous avez exposées durant la conférence, on sait qu'il a touché à plusieurs techniques, l'aquarelle, la gouache. Vous pouvez nous en dire plus ?
Ah oui, alors donc la peinture à l'huile, bien sûr, où il faisait une alchimie incroyable. Il peignait, puis ensuite il retirait avec un chiffon, il étalait avec une éponge, enfin, il griffait, il laissait pousser un ongle du pouce plus long, et il faisait des griffures, des zébrures, enfin, Incroyable, il voulait pas, personne dans l'atelier, hein, il aimait faire toute son alchimie tout seul. Et puis alors l'aquarelle, bien sûr, qui est très délicate, parce que c'est une peinture à l'eau sur papier, ça ne permet pas l'erreur, pas de repentir, comme dans la peinture à l'huile. Il était très exigeant sur les papiers, des papiers qu'il va des fois colorer et qu'il va des fois mouiller. Et des fois, il intervient sur certaines aquarelles, mouillé sur mouillé, hein, ce qu'on appelle la vie. Et c'était, on peut le dire, le roi de l'aquarelle. On disait le prince de l'aquarelle, mais ça le reste. Hein, les aquarelles de Turner, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et en plus, il y a de la gravure. Alors là, c'est pas lui qui va la faire, bien sûr. Il avait différents graveurs qui exécutaient sur acier, mais surtout sur cuivre, hein, des œuvres d'après le modèle que leur donnait Turner. Et lui était très exigeant, il suivait tout ça de très près.
Antoinette de Wolf, je rebondis sur vos propos. Vous avez mentionné justement toutes ces techniques qu'il utilisait. Il est retenu comme paysagiste, mais il a fait d'autres choses, bien évidemment. Et en tant que paysagiste, on sait qu'il était féru de croquer, de dessiner durant l'été. Et après, durant l'hiver, il allait peindre sur ses croquis.
Oui, exactement. Il a beaucoup voyagé, 21 voyages en Europe. Alors, l'été, il prenait des croquis, même des couleurs. On voit par exemple sur un croquis où il a marqué « lac noir ». Le lac était vraiment noir ce jour-là. Et il note les couleurs, etc., avec sa boîte d'aquarelle et puis les tubes de couleurs. C'est le premier qui va employer ces fameux tubes de couleurs qui n'arrivent en France qu'en 1840 pour l'école de Barbizon. Et alors lui, il va faire toutes ces différentes techniques. Excusez-moi votre question.
Bah, je disais qu'il donc l'été, il profitait pour faire des croquis, des dessins qu'il allait peindre durant l'hiver.
Alors l'été, il prenait des esquisses, des croquis. Il y a 280 carnets absolument incroyables où il note absolument tout. Et puis l'hiver, il travaille à l'atelier avec sa mémoire prodigieuse, un peu d'imagination. Bien sûr, il va rendre, peindre, réaliser tout ce qu'il a vu pendant l'été.
Alors, on sent que ces tubes de peinture, qui sont vraiment une innovation à l'époque, lui rendent beaucoup service. Il va se créer une petite besace comme ça de travail pour avoir un atelier portatif avec lui.
Oui. Il a pris un almanach, paraît-il. Il a fait des espèces de niches et il va mettre les pastilles de peinture. C'est pour l'aquarelle qu'il a fait ça. Et il met ses pastilles dans cette almanach avec une grande lanière et il se promène avec ça. Il est absolument incroyable. Et puis alors, les tubes de couleur, ça a changé la vie des artistes, hein, parce qu'on n'a plus un attirail incroyable. On pouvait à peine aller en plein air, tandis que les tubes de couleur permettent quand même. Alors lui faisait des prises de couleur, il peignait pas un tableau, hein, en plein air, mais il prenait ses prises de couleur avec ce fameux jaune de chrome qu'il a tellement aimé et qu'il a mis à la mode. Il y a pas beaucoup de jaune. Le jaune, c'est un peu la couleur de la trahison. Pense à la tunique de Judas. On peignait l'or, le doré, mais lui, alors, il va amener beaucoup de jaune. On disait d'ailleurs que certains tableaux avaient la jaunisse ou la fièvre jaune.
Ses contemporains étaient un peu méchants avec lui, il n'a pas été toujours adulé, malheureusement. Pour revenir justement à ses nombreux voyages que vous avez mentionnés, il est venu 6 fois en Suisse, si je ne m'abuse.
Oui, je crois.
Et donc, il a beaucoup peint à la fois... le château de la Batia,
oui.
Il a peint les montagnes alentours jusqu'au Mont Blanc.
Oui.
Vous avez plusieurs œuvres qui sont exposées dans cette exposition.
Oui, sur Chamonix, les Contamines, etc. Et puis alors, il a peint ce très célèbre Peau du Diable, où pas beaucoup d'artistes s'essayaient, parce que c'est un paysage vertigineux, quelque part, avec un abîme terrible. Alors lui, le pont n'existait plus, parce qu'il y avait eu cette fameuse bataille sanglante avec le général Souvarov, les Russes contre les troupes napoléoniennes, les troupes françaises, mais il invente un pont. On le soupçonne d'ailleurs de l'avoir mis plus haut pour créer encore plus ce côté vertigineux de la gorge de Chenelet.
Abyssal.
Oui, abyssal, absolument. Et il a bien montré, en fait, le côté assez terrifiant, cette nature totalement dramatisée. Mais ça, il aimait beaucoup, hein, ce genre de... les orages, les tempêtes, etc.
À propos de ses voyages, au départ, il est malheureusement confiné, ça existait déjà à l'époque, par les gardes napoléoniennes, donc il visite son pays d'abord, et après il peut enfin mettre le pied sur le vieux continent, sur l'Europe. Il ira beaucoup en Italie, et il sera très inspiré à la fois par le sud de l'Italie, jusque dans la région de Naples, mais surtout par Venise.
Oui, alors Venise, il y arrive en 1819. Venise était un peu délabrée par les guerres napoléoniennes, occupée par l'Autriche, mais gardait quand même ce sens de la fête, des fortunes érotiques, et puis de la musique, etc. Et à Venise, il a la révélation de la lumière, il le dira, et d'une autre esthétique. Et on peut dire que le tiers de sa production a été inspiré par Venise. Et la couverture de notre catalogue, l'œuvre phare, c'est le départ au bal, qui est une peinture à l'huile absolument magnifique, où il s'est tellement bien joué de la lumière du soleil par rapport au ciel, par rapport aux reflets dans l'eau, travaille dans les jaunes, dans les dorés absolument somptueux, qui fait ce tableau qu'on l'a choisi, c'est un peu l'œuvre phare de l'exposition, et qui est dans, il y a 7 thèmes dans l'exposition, et qui est dans le thème qui s'appelle « The sun is God », une phrase, paraît-il, qui aurait été prononcée par Turner, mourant le 19 décembre 1851. Son médecin raconte qu'il faisait triste à l'extérieur, à l'intérieur c'était un peu glauque, gris, et tout d'un coup un rayon de soleil passe à travers la fenêtre, inonde le corps de Turner, et là il aurait prononcé « The sun is God ». Il aimait beaucoup le soleil, pour lui c'était un astre joyeux, et certains critiques pensent que le soleil, c'est peut-être un autoportrait pour Turner.
Je rebondis sur vos propos, Antoine de Wolf, j'aurais même lu, après, est-ce que c'est vrai ou pas, vous allez me le confirmer, qu'il disait que le soleil, c'était au-delà d'un astre, c'était le plus beau des êtres.
Oui, oui, il disait que c'était le plus beau des êtres, exactement, exactement. Pour lui, le soleil, c'était quelque chose d'incroyable. Mais il faut vous dire qu'il a été élevé, sa chambre était dans un grenier, et que la vue qu'il avait, c'était les cheminées de Londres, la grisaille totale. Alors imaginez-vous, quand il arrive en Valais, quand il arrive à Venise, eh ben, pour lui, le soleil, c'est quelque chose d'incroyable, hein, une découverte superbe.
Vous venez de mentionner le Valais, il a été plus loin dans la Suisse dite primitive, je sais que vous n'aimez pas ce qualificatif, non, il a été vers le lac des Quatre Cantons, à Lucerne, vers le Rigi.
Ah oui, alors, il a beaucoup aimé Lucerne, vraiment. Il faut dire, il aime l'eau, il aime la montagne. Alors, à Lucerne, il a tout ça, le lac des Quatre Cantons, et puis ce Rigi, qu'il a beaucoup aimé. Il nous l'a montré, mais c'est pas une peinture, finalement. C'est une illusion, c'est un mirage, c'est une sorte d'hallucination, parce qu'on reconnaît absolument pas le Rigi, ni Brunnen, ni le lac des Quatre Cantons. Hein, cette espèce de rendu d'atmosphère qu'il a beaucoup aimé, Tempête sur le Rigi, je crois que c'est même une commande, mais c'est une hallucination, je vous le dis, un mirage.
On reconnaît la tempête, mais difficilement le Rigi. Pour revenir à William Turner, il était plutôt de caractère, on se souvient du film qui était passé à Cannes, très bien interprété d'ailleurs, oui. Où on le voit très bougon, très renfrogné, oui. C'est pas un guéluron. Mais en même temps, il met beaucoup de lumière, à l'inverse de son caractère, de sa réputation, beaucoup de lumière dans son œuvre.
Oui, alors Constable, c'est lui qui disait, c'était quelqu'un de rustre, mais alors, puis qui parlait avec un accent cockney épouvantable.
Covent Garden.
Mais voilà, mais alors extrêmement intelligent. Et puis cultivé, hein, il a lu, je vous ai dit, il a lu Goethe, il a lu les traités de Newton, enfin, il était très, il disait la mythologie, l'histoire, il était vraiment cultivé. Et alors, il était habité par la peinture, par la lumière, par l'atmosphère, par toutes ces impressions qu'il a voulu nous rendre dans son œuvre. Hein. Et il faut faire en fait une différence entre l'homme et la peinture. Il était aussi un peu âpre au gain, je crois, hein, d'après ce film que j'ai aussi vu, qui est magnifique d'ailleurs, très très beau film.
Âpre au gain, mais j'ai lu qu'il tentait de racheter ses œuvres qu'il avait vendues quand il avait les moyens de le faire.
Exactement. À la fin de sa vie, il rachète ses œuvres pour faire ce legs incroyable qu'il a fait
à la nation,
hein, qui va après le donner au musée. Et c'est absolument incroyable. Il a fait un testament magnifique. Et il avait même mis dans son testament qu'avec son argent, on devait faire une sorte d'EMS, enfin d'asile pour les personnes, les peintres âgés en difficulté. Et puis ça ne s'est malheureusement jamais réalisé. Alors, un petit côté généreux. Il avait un caractère très antagoniste quelque part.
Pour revenir au legs que vous mentionnez, l'Angleterre était un peu ennuyée avec ce legs. Au départ, il ne voulait pas prendre toutes ses œuvres, d'autant plus qu'elles étaient très importantes. Il y avait des centaines de tableaux, des carnets de manière infinie.
280 carnets, 30 000 œuvres sur papier et 300 toiles. C'est vrai que ça a été, difficile. Ça a fait long. Et puis, il y a aussi des neveux qui ont attaqué le testament en disant qu'il n'avait plus sa tête quand il l'avait fait. Enfin, il y a eu... Écoutez, alors ça, c'est vraiment... Je ne suis pas tellement rentrée là-dedans, mais ça a été très long et un grand problème, en effet, oui.
Antoinette De Wolf, vous avez mentionné ses sources d'inspiration, sa soif de lecture, Goethe, Newton, justement, qui va l'amener à faire des arcs-en-ciel, oui. Où il y a un côté laiteux, comme ça, qui est novateur aussi pour l'époque. Et justement, ses lectures l'ont amené aussi à faire des arrangements avec la mythologie.
L'arc-en-ciel, c'est vrai qu'il est très présent, mais jamais il peint les sept couleurs du prisme. Il y a toujours ce blanc laiteux qui domine un peu. Oui, alors en effet...
C'est parce que Newton lui a ouvert l'esprit sur ce qui se passe avec la lumière.
Newton est le premier qui va révéler l'influence de la lumière, révéler les sept couleurs du prisme. Alors, une chose, c'est que c'est un paysagiste, hein, il ne peint pas autre chose que les paysages, mais de temps en temps, il va les historiser ou les agrémenter de scènes mythologiques. Mais des fois, les scènes mythologiques, il les arrange aussi un petit peu à sa façon, avec son imagination. Mais dans les scènes mythologiques, les personnages sont minuscules, hein, par rapport au paysage. C'est pas ça pour lui l'important. C'est le paysage et puis l'anecdote qu'il veut nous raconter. Elle est très synthétique, elle est très minimaliste. Hein. Il en dit vraiment l'essentiel. À côté des corps très musculeux du Titien ou d'autres, eh bien, chez lui, c'est absolument pas le cas. Hein. C'est vraiment comme des Lilliputiens un petit peu dans le. Oui.
Vous avez mentionné justement que la mythologie, les personnages ne sont pas importants. D'ailleurs, il déplace aussi certaines situations, par exemple entre Didon et Énée.
Oui, alors là, il met Didon et Énée à Tyr, alors qu'ils se sont rencontrés à Carthage, et il les met à côté du tombeau de Cyché, ce qui ne s'est jamais passé, parce que Didon a eu un rêve, un songe où son mari assassiné lui est apparu et il lui a dit « Qui tire, c'est dangereux, va créer une ville, elle va errer, Didon d'ailleurs veut dire l'errante en grec, et elle va fonder Carthage. » Et c'est là en fait que Énée, qui lui doit aller fonder Rome, va la rencontrer. Et Cupidon fait son œuvre, il tombe éperdument amoureux, mais le devoir va les séparer. Alors lui, là, il invente complètement parce qu'il les met les deux à Tyr, mais ça ne le dérange absolument pas.
Antoine De Wolf, par rapport justement à ce qu'il peut inventer, vous avez mentionné Naxos, si je ne me trompe pas, comme île, où il va mettre des temples, même s'il n'a jamais mis les pieds sur cette île.
Oui, il n'a jamais été en Grèce, hein, mais il invente un paysage très souvent. Et il se sert souvent de paysages qu'il a vus en Italie, à la Campanie et tout ça. Ça va beaucoup l'inspirer. Et puis, il y met des temples, etc. Et pour lui, c'est la Grèce. Hein. Il a une imagination absolument féconde.
Débordante, et puis c'est un travailleur acharné, c'est aussi un grand voyageur qui va prendre des risques, parce qu'on se dit qu'à l'époque c'était difficile de voyager, rien à voir avec aujourd'hui bien évidemment, et il allait dans des endroits difficiles d'accès.
Ah oui, des fois c'était à la limite de l'accessibilité, mais il y allait, et puis par exemple... pour voir ce qu'était quand même une tempête. Il s'est fait attacher au sommet d'un mât pour voir en fait ce qu'on vivait quand on était sur un navire avec une tempête. C'était oui, mais c'était quelqu'un d'absolument incroyable. Et vous vous rendez compte, voyager à l'époque, ça devait quand même pas être facile. Hein. Mais il avait un courage incroyable, à pied, à cheval, en bateau. Hein. Il a tout essayé.
Et par rapport justement à ses contemporains, est-ce que vous avez une idée pourquoi il n'a pas été apprécié à sa juste valeur à l'époque ?
Alors écoutez, ses contemporains, à part Ruskin, qui l'a vraiment compris, qui lui était dans la littérature, un écrivain, eh bien, cette espèce de façon qu'il avait de se détacher de la réalité, de ne retenir que les impressions, d'être à la limite de l'abstraction, eh bien, c'était incompréhensible. Mais imaginez-vous, en 1822, 1820, peindre des tableaux où l'on ne voit pas ce que ça représente, où ça n'est pas figuratif. Hein. Mais c'était complètement bouleversant. Et c'est là qu'on voit à quel point il était mais totalement visionnaire, un peintre absolument incroyable. Et cette exposition rend très bien avec des aquarelles. D'ailleurs, le thème, la lumière, Et l'atmosphère, où il y a toute une série d'aquarelles, mais qui sont carrément abstraites. Et c'est absolument incroyable de voir qu'il y a plus de 100 ans, hein, cet artiste a osé quitter la réalité, les tableaux mythologiques, classiques, etc., pour oser cette avancée vers la non-réalité, l'abstraction.
Justement, vous mentionnez le classicisme, où le personnage était très visible chez lui. Le personnage est anecdotique et il sert de prétexte, comme souvent les sujets, la mythologie. Par contre, il a laissé un héritage, à défaut d'être apprécié par l'héritage qu'il a laissé à l'Angleterre à l'époque, à des peintres comme Pissarro, comme Monet.
Mais absolument. Alors, cette impression de l'atmosphère, et puis cette façon aussi d'avoir peint la modernité, le train, la vapeur des bateaux, etc., ce que faisaient pas les autres, on comprenait pas, on disait mais c'est pas artistique ce sujet, comment est-ce qu'il ose peindre ça? Eh bien, en fait, grâce à cela, il est le précurseur de l'impressionniste. Quand vous regardez Impression, Soleil, Le Vent de Monet, on n'a pas fait l'affront de le montrer dans notre conférence parce que tout le monde le connaît, mais il y a des tableaux de Turner, pas tout, certains nous n'avons pas ici, mais on voit toute l'influence qu'il a pu avoir sur l'impressionniste. Et puis de peindre le quotidien, de peindre un train, et de peindre des cheminées, de peindre des usines, eh bien ça va beaucoup influencer Caillebotte, Monet, Pissarro et tous les autres qui ont peint le quotidien, qui ont peint la modernité de leur époque, hein, qui ont coupé avec l'historicisme, avec la Bible, avec l'histoire, avec la mythologie.
En même temps, c'est presque aussi un précurseur de ce qui va prendre après le dessus, la photographie, puisqu'il peint des choses du quotidien. Un train, la fumée des cheminées, oui, c'est la vie quotidienne.
Donc, par rapport à la photographie, oui, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, on a une exposition de photographie magnifique de Michel Darblay, qui est un photographe de Martinique, qui est mort en 2020, qui était guide de montagne aussi. Et alors, on a mis dans le corridor qui va au musée de l'automobile, nous avons mis des photographies en relation avec les tableaux de Turner, des nuages, le soleil, la montagne, en fait, un peu ce qu'a réalisé Turner quand il était ici. Et le parallèle est tout à fait exhaustif et tout à fait intéressant.
C'est des photographies, il y a un travail sur la lumière important.
Pardon ?
Dans ces photographies, il y a aussi un travail sur la lumière important.
Oui, beaucoup. Vous verrez, la lumière y est très importante. Et des fois, vous avez un paysage plein de nuages, mais il y a quand même cette belle lumière du Valais qui est présente, en fait. Oui.
Rapidement, je ne veux pas prendre tout votre temps. Vous avez mentionné plusieurs thématiques pour l'exposition. Malheureusement, elles ne sont pas chronologiques, mais elles ont leur sens.
Oui, alors en fait, Elle n'est pas chronologique, l'exposition, ce qui est un peu compliqué pour les guides, parce qu'on aime développer la biographie en même temps que les dates des tableaux. Alors là, on commence avec un tableau de 1837, je crois. Alors l'exposition est divisée en 7 thèmes, qui sont d'ailleurs tous annoncés dans l'exposition. Et même dans cette thématique, la chronologie n'est pas respectée. C'est le commissaire de l'exposition, David Brown, qui a voulu qu'on ait une véritable immersion, c'est ce qu'il dit, dans l'œuvre de Turner. Pour cette raison, il n'y a pas de chronologie. Mais pour les guides, c'est un petit peu compliqué. On s'y est fait, mais ce n'est pas simple.
C'est plus acrobatique. Oui. Et puis, une dernière question, puisque vous nous avez consacré de votre temps ce dimanche matin, ce samedi matin, c'est moi qui suis fatiguée. Vous avez une longue histoire d'amour avec la Fondation Dianada, 4 décennies, si je ne m'abuse.
Oui.
Comment est venue cette passion commune entre la Fondation, les œuvres qui y sont exposées et votre présence?
Oui. Écoutez, au début, j'adore l'archéologie et je faisais des visites bénévolement pour les écoles et tout du gallo-romain. Et c'est Monsieur Dianada qui me piège un jour et me téléphone et me dit « Tu vas faire Paul Klee ?» Et je réponds « Non ». Et « Oui, oui, tu vas faire Paul Klee ?» Et puis bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la peinture. J'ai été habituée avec ma maman à visiter des expositions. La première, Rodin à Yverdon, je devais avoir quelque chose comme 5 ans, je crois. Ah, j'ai toujours couru, j'ai suivi pas mal de cours d'histoire de l'art à l'université populaire, etc. Je suis un rat d'exposition. Et puis Paul Klee, c'était le bon peintre pour commencer, parce que vous savez qu'il y a une matrice de Paul Klee et qui parle de toutes ses œuvres. Alors ça, c'était vraiment très agréable de commencer avec lui. Et puis voilà mon histoire d'amour. Et puis comme vous êtes de Martigny, quelque chose de très amusant, je ne le dis jamais dans les visites, mais le terrain, l'endroit où est la fondation, c'était le jardin de mon papa, un jardin où tout poussait, les pivoines, les asperges, les rennes, un jardin mais absolument magnifique. Et moi, je venais jouer là, il y avait la meunière avec les copains, on jouait au bateau, on jouait à cache-cache dans le jardin et tout. Et mon père l'a vendu à Léonard, et qui, comme Martigny était homologué ville d'intérêt national au point de vue archéologique, on fait des fouilles avant, on trouve ce temple gallo-romain qui est, comme vous le savez, un des plus anciens pour le moment, parce qu'en archéologie, rien n'est jamais
tous
définitif.
Les jours on découvre.
Exactement. Mais c'est le temple indigène le plus ancien de Suisse, ça. Et l'archéologie voulait le garder. Que faire? C'était vraiment un combat entre Berne, etc. Mais tout d'un coup, la fatalité a fait que le frère de Léonard a eu un accident d'avion. Il est décédé. Et en fait, pour honorer la mémoire de ce frère que Léonard aimait beaucoup, il a érigé ce mémorial, en fait, qu'est la fondation Pierre Dianada, qui porte le nom de son frère.
Et si on voit des pivoines dans le jardin de la fondation, on pensera et à vous et à votre papa.
Oui, non, il n'y a pas de pivoine. Il n'y a pas de pivoine, mais il y a des abricotiers et tout. Je ne sais pas s'il les a gardés, parce que nous, on avait des abricots, tout poussait dans ce jardin.
Une terre fertile.
Et, ouais, et puis, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. J'avais une nounou qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui a vécu très longtemps, et qui me disait qu'elle adorait le soir venir dans le jardin avec son mari. Il y avait un banc et une petite gloriette, je crois qu'on appelle ça comme ça. Elle adorait, elle disait, on se sentait tellement bien. Elle m'a dit d'ailleurs, quand j'ai voulu acheter un appartement, j'aurais bien voulu aller dans ce quartier, mais il n'y a pas assez de soleil l'hiver. Elle a acheté l'autre côté. Mais c'est normal, on s'y sentait bien. Il y avait un temple. Hein, et on sait
il y avait des ondes telluriques.
Mais bien sûr, on sait très bien que les Romains, ils construisaient dans des endroits, les Gaulois, c'est les druides qui choisissaient l'endroit et tout, où on était bien. En fait.
Souvent proche des sources.
Proche des sources. Et puis on faisait paître les boutons. On voyait s'il paissait, c'était bon signe. Hein. Et on créait. Et quand je pense souvent à ça, elle me disait je me sentais tellement bien. C'est incroyable.
Hein. Oui, une sérénité, un apaisement.
Oui, oui.
Antonin De Wolf, merci pour tout ce temps et toutes ces anecdotes et tout cet éclairage sur la lumière de William Turner. On vous retrouvera pour la prochaine exposition.
Oui, merci beaucoup. Très gentil, absolument. Oui,
merci
oui.
À vous.
Merci.